écoutez Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de pédocriminalité. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. La libération sexuelle, un fort héritage laissé en France par mai 68. C'est dans ce contexte-là qu'a grandi Ali Mata, adoptée par un Français dans les années 80.
Je m'appelle Ali Mata, j'ai 47 ans. Et du coup, je vais parler un petit peu de mon histoire, de ce qui s'est passé. Et juste pour commencer, je voulais mettre les choses dans un certain contexte, parce que j'ai l'impression qu'à notre époque, en fait, les gens ont oublié un petit peu, parce qu'on a évolué, on est aujourd'hui en 2024, certes, mais par exemple, moi, je suis arrivée en France dans les années 80. C'était un contexte, je vais me répéter, mais en fait, Julie Lecudrez dit ça dans une de ses interviews qui... Souvent, elle le répète, où c'est une époque où on ne savait pas qu'on pouvait dire non. Parce qu'on est dans un contexte où on grandit, en tout cas moi, petite fille comme elle, je pense, avec des post-68 arts. On sort de la libération sexuelle. Et donc, il y avait des choses qui étaient pour les adultes, qu'on nous faisait vivre, consciemment ou pas, mais qui étaient normales. Et donc, il n'y avait pas cette place qu'on a aujourd'hui de l'individu où ce qu'on fait, par exemple, ce qui lui est arrivé à elle, n'aurait pas eu de place, par exemple, aujourd'hui. Et donc, c'est un contexte dans celui-là où on grandit, où on subit des attouchements ou des abus sexuels, où on n'a même pas une fenêtre, où on sait que ça ne doit pas exister, on n'a pas le droit en fait de subir ça. Donc ça, c'est aussi très important de remettre un peu dans ce contexte-là des années 80 ou 80-90, où il n'y a pas toutes ces associations. Et donc voilà, et donc moi j'arrive dans les années 80, enfin début 80, et donc dans une petite ville, dans le Gard, à côté de Nîmes, à Alès. Et donc, j'ai déjà, en fait, à la base, déjà le trauma, parce qu'il faut savoir, je suis une enfant adoptée, avec une adoption assez particulière, monoparentale, mais tout en connaissant mes parents. Et la chose, c'est que j'évolue, mais je vais avancer très, très vite. Je vais arriver jusqu'à mes 19-20 ans, où je me suis émancipée. Hein, je suis partie, je travaille à l'époque comme serveuse dans un restaurant. Et un soir, je regarde un reportage sur... à l'époque, on appelait ça la pédophilie encore. Et je ne sais pas, en fait, pendant que je le regarde, il n'y a rien spécifiquement qui se passe. En fait, j'éteins la télé, je me couche, mais c'est le lendemain, je me réveille, mais pas du tout pareil. En fait, c'est très difficile en fait, à décrire et à essayer de vraiment de bien l'exprimer. Mais c'est comme si y avait des fenêtres en fait, de mon cerveau qui sont ouvertes. J'avais un retour de souvenirs de différents événements d'attouchement de différentes personnes qui étaient vraiment posées là dans mon cerveau et dans ma mémoire, alors que auparavant, elles n'y étaient pas. En fait, après, quand on se dit ça, je vais mettre des guillemets parce que j'ai grandi et on sait qu'il y a un mal-être aussi qu'on vit, mais parce que c'est ces choses-là, mais que ta mémoire a verrouillé. Maintenant, j'arrive à en parler comme ça et à le décrire parce que il y a une part de moi qui dit, en fait, je savais. Mais en fait, au fond de soi, c'est compliqué. Donc c'est un peu un geyser de c'est douloureux parce que tu te dis, dans un premier temps, il y a certains souvenirs qui sont très clairs. Il y a des choses qui sont très diffuses aussi. En fait, comme s'il y avait un voile dessus, mais c'est bien là. Et ça, c'est un peu... je pense que si on devait donner, je devais réécrire, je pense que c'est la pire période de ma vie, en fait. Donc là, à ce moment-là, on est fin des années 90, je pense, pas encore 2000. Mais on est, il n'y a pas accès en fait. Moi, en tout cas, j'ai pas connaissance d'avoir accès à la psychothérapie ou aux aides en fait qui vont de soi à ce moment-là. Et donc, je suis face à moi-même en fait avec ça et en fait avec une partie de moi qui en fait parce que ça me rassure parce que c'est douloureux qui se dit en fait t'as fabulé. Parce qu'il y avait aussi ça. Je me disais j'étais en colère parce que dans un de ces souvenirs ça met en jeu aussi mon père adoptif et je me dis il y a une partie de moi et ça la rassure de se dire en fait. C'est ce que tu as trouvé de mieux pour aller à l'encontre, en fait, pour valider ta colère par rapport à cette adoption. Et en fait, je gère un petit peu comme ça. Et puis, faut savoir aussi pareil, c'est un peu ce que vivent un peu toutes les victimes. Je fais des tentatives de suicide, en fait. Parce qu'il faut savoir, c'est juste comme une... C'est une douleur, c'est incommensurable, en fait. C'est pas un petit bobo, c'est pas une petite tristesse. C'est vraiment quelque chose qui est profond. Et donc, du coup, on a besoin de le faire taire, en fait, parce qu'on n'a pas les mots. Et donc, moi, c'était ma seule solution, en fait, de faire taire cette souffrance. Et puis, à l'époque aussi, je pense que les intervenants psychiatriques que je rencontrais n'étaient pas du tout armés pour ça. Moi, je sais qu'on m'a donné beaucoup, beaucoup d'antidépresseurs, de choses, mais... Sur le sujet lui-même, en fait, j'ai pas été trop, au départ, pas trop suivie, pas trop entendue. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. C'était surtout d'être traitée pour de la dépression, mais après, pas de suivi sur ce sujet-là, en fait. Et en fait, pareil, je suis maladroite, en fait, je ne sais pas trop. Il y a un moment donné, je crois que je rencontre un psy qui franchement, bah, me suit, en fait, il m'entend. Et en fait, l'idée, c'est d'en parler, parce que c'est bien beau d'en parler à quelqu'un que tu ne connais pas, mais le sujet, ça reste familial et il faut quand même... Et en fait, il y a un autre truc aussi, pendant très longtemps, je me disais, bah, en fait, comme les autres personnes qui m'ont fait subir ça ne sont plus proches, je n'ai pas la possibilité de les atteindre, la seule qui était en lien, c'était mon père adoptif, sauf qu'en fait, ta mémoire, elle est très intelligente. C'est mon premier, en fait, attouchement, c'est lui qui me l'a fait subir, et c'est pour ça que je bug, en fait, sur lui, et que j'ai un besoin, mais ça, je le sais, je m'en rends compte que bien longtemps après. Et en fait, je fais ce truc à maladroit, et je m'en suis voulu des années, c'est que j'en parle à ma petite sœur, qui, la pauvre, elle, je crois que je me rappelle de mémoire, je lâche le truc, tac, tac, et je raccroche et je la laisse avec ça, en fait. Parce que c'est un peu compliqué de... Je te dis, à cette époque-là, il y a tout qui revient, mais tu n'as aucune clé pour vraiment le comprendre. Pour, alors, l'accepter, on n'en parle même pas, mais juste le comprendre. Et en fait, c'est comme ça, lâcher ta douleur. Et ce qui se passe, c'est que bah, forcément, elle en parle à mon père adoptif. Forcément, ça fait un peu le chemin dans la famille. Et en fait, après, c'est marrant parce que tous les psys, après, quand j'en reparle, ils me disent ça, c'est ça aussi, il faut que les victimes qui ont parlé ou qui ne l'ont pas fait, il faut qu'elles l'entendent, c'est que c'est un cheminement normal. C'est-à-dire que quand tu vois toute la masse, en fait, le bordel que ça met dans la famille, et alors, sans forcément qu'il y en ait qui prennent parti plus d'un côté que de l'autre, mais c'est, tu te dis, le marasme, moi, je n'avais pas les épaules, du coup, je fais machine arrière et je me rétracte. Et ce n'est pas la chose à faire, certes, mais c'est c'est l'instinct de survie, en fait, qui te met dans ce truc-là. Ouais, mais c'est pas le meilleur des choses, parce qu'après, avec le recul, je me dis, bah, déjà, j'avais pas les épaules, j'étais pas armée pour, mais je me suis bouffée, en fait. Pareil, c'est comme dans l'amnésie, c'est pareil, au fond, ça reste derrière toi, mais au fond de toi, tu sais que c'est pas... C'est-à-dire que je vais à l'encontre en me disant, non, mais en fait, c'est mon cerveau, je me trouvais plein d'idées, comme je te dis tout à l'heure, qui m'a joué des tours, je suis contre mon adoption, j'ai besoin d'un bouc émissaire. Et en fait, pas du tout, parce que du coup, je me retourne les choses intérieurement, où je me fais encore plus de mal, en fait. Alors moi, je me scarifiais pas, mais je te dis, j'allais souvent en finissaire avaler des médicaments pour finir en hôpital. Parce qu'en fait, c'était... et ça, j'ai une de mes sœurs, dernièrement, on en parlait. Elle avait vachement de mal à comprendre, mais moi, l'hôpital psychiatrique, c'est l'endroit où je me suis toujours sentie protégée. Parce que c'est un lieu où tes souffrances, en fait, même si à l'époque, il y a des années, elles n'étaient pas forcément... Ils n'avaient pas les outils pour te répondre. C'est un lieu où, en fait, tu es protégé parce que ton mal-être, en fait, même s'il n'est pas toujours compris, il est entendu et il a le droit d'exister, en fait. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me permettait d'être à ma place, en fait, avec ma souffrance. Après, la gérer, c'était autre chose. Et que du coup, ça m'amène à ça où pendant des années, je me fais passer pour une menteuse aux yeux de tout l'entourage familial. Okay. Et il faut savoir, en fait, que du coup, les enfants, il y a quelques années, les enfants adoptés sont reconnus comme les enfants légitimes. Et donc, mon père adoptif a cette démarche. D'entre-temps, il s'est remarié avec une femme. Et donc, il a souhaité adopter le fils de cette personne, en fait. Moi, je reçois cette lettre. Donc déjà, sur l'adoption, ça me dérange énormément. Mais bon, ben, tu dois renvoyer au juge des affaires familiales, en fait, ton consentement ou ton non-consentement. Et donc, avec mes sœurs, enfin une de mes sœurs en tout cas, on fait une réponse jointe en expliquant, mais très succinctement, que bah, on n'est pas pour, en fait, donc on donne notre non-consentement. Et en fait, la violence, c'est en juillet, je pense, 2020, il me semble. Ah oui, parce que ça, c'est un autre truc qui a l'amnésie traumatique, c'est que moi, ma mémoire est complètement un peu bousillée. C'est-à-dire, j'ai vachement de mal sur le temps. Il y a des fois, il faut vraiment que je fasse une chronologie écrite. Et donc, c'est vers juillet 2020, il me semble. Je reçois en fait un papier avec huissier du courrier en fait que nous joint le juge des affaires familiales, le courrier que mon père adoptif a joint. Et en fait, c'est 5 pages, mais pourries en fait. Mais quand je te dis pourries, c'est vraiment pourries. C'est-à-dire qu'en clair, très misogyne, très un peu, enfin, truc un peu suintant, un peu le colonialisme aussi. Genre en disant clair que s'il n'avait pas été là, il ne m'avait pas adopté, j'aurais fini gardienne de chèvre. Puis plein de choses extravagantes. Ça en fait, en même temps, c'est pareil, en fait, quand tu grandis dans quelque chose qui te le rabâche tout le temps, ça devient une normalité pour toi. Et en fait, là, ce qui n'est pas passé, c'est à un moment donné, il parle de justement les accusations. Et en fait, je bug. Moi, j'ai un truc de... C'est comme si ça, les autres choses assez violentes qu'il avait dit, c'était rien. Et premier plan qui passe, parce qu'il faut savoir aussi que des années plus tard, moi, je me dis, au moment où j'ai ma première fille, je me dis, en fait, ça, ça passe pas. Je refinis encore en hôpital psychiatrique. Mais par contre, cette fois-ci, au lieu de me faire mal à moi, je me présente spontanément, en fait, à l'hôpital en l'expliquant la thématique. Mm-hmm. Et on s'entend avec le psy, justement, de faire une sorte de thérapie familiale. Et mon père adoptif, en fait, fait un déni total, en fait, en clair. Il comprend pas de quoi je parle.
Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir ta fille par rapport à ce que tu as vécu?
Justement, tu as tout qui revient. Je te dis, ça te ramène à l'enfant. Quand tu deviens parent, ça te ramène à ton propre enfant, en fait. Et ce que ça m'a amené, c'était vraiment ce truc où je me suis dit, parce que jusqu'à maintenant, c'était le déni que j'avais en face de moi et je m'en satisfaisais. Et en fait, là, la chose qui avait changé, intérieurement, ça ne me satisfaisait pas du tout. Et donc, j'y étais quand même en douceur. C'est-à-dire que j'ai quand même été avec un psy. Et c'était violent parce que c'est aussi ça la difficulté. Et les psys ont essayé, apparemment, de me dire, préparez-vous au fait que vous allez avoir face à vous le déni qu'il ne reconnaîtra jamais. Et en fait, au fond de toi, tu as quand même ce besoin de justice qu'espère. En fait, je me disais, il allait dire, écoute, vraiment, je suis désolée. Et en fait, encore une fois, c'est de te poser les choses, c'est toi le problème. Et donc, quand on a eu l'entretien, alors c'est très bizarre d'ailleurs, parce que il a d'abord entendu mon père adoptif et après il m'a fait rentrer. Et moi, j'avais encore à l'époque du mal, en fait, à parler de ça devant lui. Tu vois, j'arrivais pas à dire les faits qu'il m'avait fait vivre. Et donc, je pars sur un exemple d'un événement que j'avais eu avec lui, tu vois, de reproduire un autre événement que j'avais vécu. C'est-à-dire, d'un moment donné, on était une sorte de siège, je crois. Et en fait, il est déjà, c'était très bizarre. Il vivait toujours à moitié à poil, en fait. Il mettait genre un boubou, alors qu'il est français, mais un boubou, il sent rien, c'était à poil en dessous, tu vois. Et donc, forcément, c'est très large en tête, tu vois, forcément la personne à poil en vérité, quand tu mets rien en dessous. Et donc, moi, j'attrape son sexe et je le mets entre mes jambes. Et je me revois encore déjà faire ça. Et je me dis, voilà, à ce moment-là, quand je fais cette thérapie FMA, je me dis, ça fait partie des premières, moi, j'appelle la déconstruction que j'avais de mon cerveau. Je me dis, tu vas être parent, en fait. Et donc, toi-même, c'est ton enfant qui fait ça demain. Ouais. Tu dis, il y a un problème. Qu'on soit dans les années 80, 90, je m'en fous, en fait. Tu vas pas me dire, Non, c'est juste. Tu te dis juste, il y a un problème, où tu vas demander à ton enfant où est-ce qu'il a vu faire ça. Là, non. Là, je me suis mangée, et ces choses bizarres que tu fais. Et je me dis, j'essaie de reparler ça. Et donc, en fait, je me rappelle pas. Moi, je me suis mangée, je ne me rappelle pas. Et je me dis, mais comment tu peux ne pas te rappeler? Encore une fois, si tu aimes les enfants, si tu peux pas, c'est pas quelque chose qui est. Et donc, moi, ça se traduit par ça, ce truc où je me dis, il y a plein de choses qui m'est arrivé qui n'étaient pas normales qu'il y a à l'enfant, c'est quand je me disais, c'est mon enfant. Et en fait, c'était ça, en fait, que j'avais dans la tête. Ça m'était arrivé à moi, je me disais, mais si, c'était à mon enfant. Oui. Et tu vois, de plus en plus. Et donc, alors, on parle maintenant des trucs transgénérationnels de plus en plus, mais moi, il y avait aussi cet aspect-là, de me dire, j'ai envie de laisser ça derrière. Il y avait vraiment cette intention. J'avais pas forcément le bagage pour, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est à partir de là, moi, que j'ai arrêté de parler avec mon père, en fait. Il y a cet entretien-là. Et là, je ressors de là un peu. Alors, j'avais aussi misé beaucoup parce que moi, je pensais que le rôle du psy, c'était il allait tout réparer, c'était pas son rôle. Il me connaît pas sur un entretien de 20 minutes, voilà, il fait ce qu'il peut. Et il était clair qu'on n'allait pas reconduire le truc, vu la catastrophe du truc. Mais c'est comme ça qu'après, je demande au flic qui est sur le forum de me donner une idée et qui m'annonce qu'il y a prescription. Et c'est comme ça que du coup, je repars encore en hôpital psychiatrique. Et là, en fait, il a ce truc de venir me voir. Et moi, je me revois, en fait. Sortir du couloir de ma chambre, en fait, de ma chambre, aller dans le couloir et tourner. Franchement, je vois encore la scène. Et en fait, j'étais pas loin de l'accueil et je le vois, lui, debout. Et là, c'était physique, en fait. J'ai eu une sorte d'attaque de panique. Je me suis rentrée tout de suite dans ma chambre. J'ai sonné les infirmières et j'étais tremblante. J'étais vraiment en disant, je veux pas le voir. Et c'est vraiment là, en fait, avec cette réaction corporelle que je me suis dit, non, mais en fait, t'es en train de te flinguer depuis des années. T'es en train de vivre, on ferait un truc qui est toxique. Mais tu le sais pas, c'est encore une fois l'emprise psychologique, ton cerveau en fait est twisté, tu n'as pas la place, il n'y a pas la place pour toi, pour je, il n'y a pas, c'est vraiment tout est bouffé, t'as l'impression, et moi pendant des années j'ai l'impression que s'il n'était pas dans ma vie, il y a une sorte de carence affective aussi, c'est mon seul repère en fait en France, familial, je n'ai rien, mais à la finalité non en fait il me fait plus de mal, et c'est comme ça que j'arrête complètement de... Ouais, je comprends complètement les points à partir du moment où j'ai ma première fille, en fait, à ce moment-là.
Ok.
Et pour revenir à ce courrier, parce que moi, à cette époque-là, je me dis, la seule façon d'être crue, c'est de porter plainte, en fait. Mmh. Et, Et ce qui se passe à cette époque-là, quand je décide de porter plainte, c'est que y a prescription. En fait, j'allais sur un forum de victimes et il y avait un policier. En plus, ce que je trouvais formidable, c'est de son temps libre à lui, il prenait le temps de parler avec les victimes et il me sort justement, en fait, qu'il y a prescription. Et là, je bug aussi pareil. Je me dis voilà, je vais jamais pouvoir faire entendre et être reconnue comme telle. Et là, quand je reçois ce courrier du juge et de pour cette histoire d'adoption, dans mon cerveau, il y a vraiment un truc. Alors que ça n'a rien à voir. Il portait pas plainte contre moi, mais je me disais, je comprends pas. C'est un secret et c'était pas à lui de le porter à la justice. En fait, il y a quelque chose de qu'à la fois, en même temps que je mélangeais, en me disant, moi, je l'ai pas pu l'emmener à la justice. C'est pas à lui de le faire, en fait. Et l'autre chose aussi assez importante, c'est que quand on a demandé de répondre en fait à ce courrier-là, moi d'abord on a fait témoigner des personnes en fait qui nous ont connues dans notre enfance et proches et qui ont pu témoigner en fait déjà de notre vécu d'enfance. Elles avaient vu des choses assez étranges, mais elles n'avaient pas de preuves en fait. Mais c'était important, tu vois, que ça soit écrit. Ouais. Il y avait une trace de ça. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Il n'y a pas de souci. Et juste pour préciser justement ce que tu viens de dire, les choses étranges dont
C'était, vous avez été témoin. C'était une hypersexualisation des choses. Il y avait aussi le truc, moi, qui m'a encore choquée, pas encore dernièrement, c'est on était des filles, en fait, et les bisous sur la bouche, tu vois, jusqu'à... on ne pouvait pas fermer la salle de bain, par exemple, même à la puberté. À l'époque, il y avait... je me rappelle, quand je suis arrivée, il n'y avait que 4 chaînes. Il y avait la 5e qui était arrivée, puis tu as M6. Et M6 faisait tous les dimanches, il y avait un film érotique qui passait. Et en fait, le droit de regarder ce film érotique, en fait, c'est l'emprise psychologique et dans laquelle on peut te mettre. C'est-à-dire que moi, jusqu'à dernièrement, et jusqu'à, je pense que j'ai aimé mes filles, mais c'est juste dernièrement, quand on a eu cette procédure avec mes sœurs, on a ces déclics en se disant, mais en fait, ce n'était pas normal. Il y avait une chose de pas normal. C'est-à-dire qu'il y avait les premiers Mac. À l'époque, avec les disquettes encore, et il y avait ce jeu. Et en fait, même quand j'y repense à cette scène, j'hallucine. On sort de table, c'est un dîner où il a invité des amis. Il y a des hommes et des femmes, en fait. C'est aussi ça qu'il faut préciser sur cette époque-là. Et donc, moi encore, j'ai du mal à en reparler. Et donc, sur le jeu, tu as en fait une femme qui est nue, les jambes écartées. Et sur le côté, en fait, de l'écran, tu as différents outils que tu peux introduire dans la femme, en fait. D'accord. Et je revois ça, en fait, cette scène où mon père, tout content, adoptif, tout content, en fait, clique sur le truc, met des choses dans le vagin de cette femme. Et nous, on est là avec les enfants, en fait, et on assiste à cette scène. Et c'est juste, tu vois, j'ai pas de mots aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose de... Et c'est cette banalisation de la sexualité des choses et d'être témoin de choses... Je sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Complètement, ça illustre bien.
Ouais, ça fait partie de ces choses-là. Et parce qu'après, j'en rebondis beaucoup.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au moins tu prends des bribes de ce qui me vient.
Coup, et donc, c'était pour dire de. Parce que je parlais de la procédure et du coup, il y a l'étape où déjà quand tu deviens parent, parce que ça, c'est une chose aussi, homme ou femme, je pense que ça te renvoie à ta famille, à toi, à ton vécu, à ton histoire familiale. Mais moi, quand on répond, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Quand on doit répondre, moi, j'ai mis ça, en fait, dans le courrier, en fait. Parce que toute l'avalanche de merde, dans tous les sens, à qu'elle soit, que ce soit du côté familial, parce que moi, j'ai toujours dit, quand une famille est adoptante, c'est l'endroit, normalement, tu dois le trouver le plus d'amour, en vérité. Il y a pas... ça va de soi, en fait. C'est une famille qui ne peut pas avoir d'enfants. Donc là, moi, ce n'est pas le cas, dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, sur les abus sexuels, en fait, c'est que toute l'avalanche de merde dans laquelle il avait écrit, c'est des avalanches de merde dans lesquelles on avait grandi. C'est un discours dans lequel j'ai grandi, que j'ai pris en fait comme normal en fait pendant très très longtemps, jusqu'à encore pas si longtemps en vrai. Du coup, je me retrouve à répondre à la juge parce qu'on devait avoir le droit de réponse. Et je dis, moi en fait, je pourrais dire la même chose. J'ai renvoyé juste une lettre que j'avais écrite 10 ans auparavant quand j'ai pris la décision d'arrêter de le voir. Et en expliquant ça. Et en fait, quand j'ai l'une de mes sœurs, quand on parle justement de ce qu'on va envoyer au dossier, etc., je me rends compte que cette lettre, en fait, je l'ai envoyée à lui, mais je ne l'aurais jamais fait lire, en fait, à mes sœurs. Et je l'ai lui fait lire. Par contre, pour elle, l'amnésie, elle a été traumatique. Ça s'est élevé devant mes yeux, en fait. Elle m'a dit, mais waouh, en fait, ça me parle de quelque chose que j'ai vécu moi aussi avec lui. Mmh. Et donc, ça met du poids encore dans ma démarche, parce qu'il y a une autre personne, en fait, et qui fait partie de mon entourage familial, qui n'est plus ou moins une de mes sœurs. Et pareil, quand tu as subi des trucs comme ça, tu as des trucs post-traumatique, et donc là je me retrouve avec toute la même souffrance, en fait, avec la même intensité de l'époque. Et pareil, ne pas pouvoir dormir, pas pouvoir manger, en fait, être dans un truc, ne penser qu'à ça, H24, je me couchais avec, je me levais avec, quand j'arrivais à dormir. Et du coup, je faisais plein de recherches toujours. Et pareil, quand tu es sur Internet, tu cliques un lien, tu vas sur un autre, tu recliques sur un autre. Et en fait, je me rends compte que je suis sur un chat et... en ligne, en fait, avec en fait, c'était les violences faites aux femmes, je crois. Et il y a des policiers, il me semble, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui change, c'est que du coup, la personne me dit bon, bah, vous serez recontacté très prochainement. Et ça n'a pas raté. Deux jours après, en fait, j'ai été appelée par un policier du commissariat. Moi, je suis du 14e, donc. Et j'ai été entendue. Et c'est suite à ça, justement, du coup, j'ai été appelée. Donc, ça, c'était en août. Et. Donc, du coup, j'ai été entendue. Et pareil, je me revois la veille en me disant oh, « Non, mais les faits, il date des années 80. Le type, il va me rigoler au nez. En fait, il va arriver et se dire « Attends, c'est bon. Meuf, faut... » Et pas du tout. Moi, je me suis retrouvée. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir été hyper chanceuse. Et je pense que je crois vraiment au truc de l'univers. Je pense que l'univers, il m'a un peu protégée. Parce que ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que je me reçois avec quelqu'un qui n'est pas du tout psychologue et qui me dit, bon, bah, écoutez, madame, écoutez, c'est bien bon, mais les années 80, nous, on n'a aucune... Là, pas du tout. J'ai vraiment eu une écoute. D'abord, ça s'est fait en deux étapes. Il m'a d'abord écoutée. Et d'accord. Ensuite, il m'a proposé une pause club. Et je l'ai vu passer, en fait, valider en fait, à sa supérieure que j'étais... voilà, ce que je disais, ce que j'écrivais avait du sens. Après, pareil, bah, j'ai été contactée par la brigade des mineurs et puis entendue. Alors, moi, il m'avait bien expliqué hein, que les faits remontaient certes à bien loin. J'ai eu l'écoute et l'entente qu'il me fallait, en fait, pour moi, en tout cas, dont j'avais besoin d'être entendue, mais que je n'aurais pas de procès. Par contre, c'est ce qui a changé, en fait, aussi au niveau juridique, c'est qu'on va prendre les témoignages si jamais il y a d'autres victimes, en fait. D'accord. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que tu peux avoir subi quelque chose dans les années 80 et puis ne rien dire. Et puis, finalement, si tu n'as pas parlé, mais par contre, s'il y a quelqu'un qui surgit dans les années 2000, on peut faire le lien. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est pas grave que j'ai pas de procès parce que c'est déjà beaucoup en fait. C'est ce que j'expliquais aussi dans un autre témoignage, c'est que moi, en fait, j'ai fait déposer. Par contre, je suis rentrée quand je suis éclatée de fatigue, le mot est très faible. J'avais l'impression d'avoir tout le poids du monde sur le corps et j'ai dormi mes 24 heures. J'ai halluciné parce que mes enfants, elles étaient pas très grandes et je me suis réveillée 24 heures après. L'aînée, elle a été géniale parce qu'elle a géré sa sœur, mais c'est pour montrer en fait le poids que tu as en fait cette nécessité je pense de faire ce chemin en fait c'est hyper important d'être reconnaissance de victime et je te dis moi je vais pas avoir de procès mais ne serait-ce que d'avoir juste été reconnue victime et après ce qui est très intéressant c'est que on nous a appelé quelques mois plus tard en fait par des amis d'amis qui sont en lien avec lui et en fait la police est allée le chercher il a été mis en examen alors il y a beaucoup de gens qui disent voilà la mise en examen n'est pas mais je voudrais juste rappeler que s'il y a rien parce que la présomption d'innocence comme on dit souvent si un juge va mettre en examen c'est-à-dire que si ça vient enfin mettre en examen c'est-à-dire qu'il va examiner un peu plus en profondeur c'est qu'il y a quelque chose qui le titille sur le sujet donc il faudrait juste rappeler ça aussi aux gens je dis pas que c'est pour tous les procès ou pour toutes les plaintes mais que moi enfin en fait ça a été la cerise sur le gâteau pour moi en fait ça a été vraiment de mais en fait on peut te croire il faut savoir aussi, parce qu'il y avait eu cette procédure chez le JAF. Ce qui est con, c'est qu'en fait, il s'est tout seul tiré une balle dans le pied. Parce que quand il a fait cette procédure et en parlant, déjà, le juge des affaires familiales, il faut savoir que c'est très rare ce qu'elle a fait de nous convoquer. D'accord. Ça, c'est d'un. De deux, on a eu notre droit de réponse. Donc, tout le dossier, comme il a été statué et jugé devant un juge, on a pu le transmettre à la brigade des mineurs après. Donc, ça a été pris en compte, en fait. Donc, quand le juge est arrivé, il avait ça aussi qui est venu. Il n'y avait pas juste ce que j'avais raconté au mois d'août dans le bureau du flic, en fait. Il y a eu tout le suivi. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai atterri chez lui. Donc, c'est le cerveau qui se mord la queue. Enfin, c'était vraiment un mal pour un bien. Parce que moi, je même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas de repasser par là, en fait. C'est parce que je pense que les gens ne se rendent vraiment pas compte. C'est vraiment... Le mot, et encore, je trouve qu'il est faible, incommensurable. C'est vraiment ça. C'est une douleur. On te retire quelque chose de toi. Et moi, je me rappelle très bien, et pendant très longtemps, je n'ai pas fait de thérapie pour ça parce qu'il fallait payer. Et dans la tête, j'avais un truc. Je me disais, je vais payer quelque chose qu'on m'a fait subir. Et c'était dur, hein, parce qu'en fait, en définitive, c'est pour ton bien et c'est pour toi. Et c'est justement dans les directives du juge, c'est ce que je trouve ça génial en vrai. Parce que c'est quelque chose qu'on te fait vivre. Des fois enfant, des fois jeune adulte, des fois ado, des fois... Mais ça te suit, mais toute ta vie, on va arrêter ça. Ça a des traumas qui sont échangés à vie et c'est quelque chose. Et souvent, alors, Il y avait un autre truc aussi, je voulais parler de ça, c'était... Moi, je me pendant très très longtemps, parce que j'ai subi des attouchements, et alors ils n'étaient pas répétés, parce que c'est ça aussi la particularité. D'accord. Moi, je n'ai pas eu un père qui m'a tripoté pendant ça, alors, pendant des années, en fait. C'est un épisode qui s'est passé un après-midi et qui m'a marqué à vie, en fait. Ouais. Et c'est fou, la mémoire, quand même, parce que je suis restée bloquée là-dessus, et ça m'est revenu, c'est l'événement qui me revient. Mmh. Et du coup, je ne me légitimais pas. Et je me disais, ben non, parce que moi, je n'ai pas été violée. Et en fait, cette phrase aussi, pareil, c'est quand même des propos qu'on nous a sortis dans les années 90. Mmh. Bah, ça va, tu n'as pas été violée, en fait. Quand on parlait des attouchements, ce n'était pas grave non plus. Et donc, du coup, moi, je me suis construite avec ça en me disant, ben, ce n'est pas grave, en fait, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas violent. Et en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne m'a jamais dit, par exemple, moi, on ne m'a jamais dit, on m'a tripoté, on m'a dit, chut, il ne faut pas le dire, c'est un secret. C'est ton corps, en fait, et ton psychisme, au niveau psychologique, dès qu'il y a une intrusion, un attouchement, ton corps et ton esprit le sent. Tu te figes. Moi, c'est les états que je me rappelle très bien. Tu te crispes. Et c'est pire quand t'es enfant, parce que t'as pas de mots pour mettre dessus. Mmh. Mais tu sais que c'est interdit. Ouais. Au fond de toi, tu sais, tu sens que ce qui se passe n'est pas normal. Et tu sens aussi que, justement, tu ne peux pas en parler. Et moi, les rares fois, et en fait, c'est aussi ça, parce que j'ai une double culture qui est à la fois française et nigérienne. Et il y a un attouchement, par exemple, qui m'est arrivé quand j'étais au Niger. Et une de mes tantes, en fait, nous a surprise, en fait, avec l'agresseur. Lui, il est parti, il s'est rhabillé en vitesse. Et moi, je me suis prise l'injonction de « c'est moi la dégueulasse », en fait, tu vois. Et donc, il y a vraiment cette chose qui se construit de « pourquoi, en fait ?» Tu sens au fond de toi, il n'y a même pas besoin des autres pour le dire, mais voilà. Donc, c'est aussi ça, de faire passer le message qu'il n'y a pas d'hiérarchie, en fait, dans les souffrances. Un abus sexuel peut être aussi violent. Enfin, alors après, je ne veux pas comparer, hein, c'est vraiment pas bien l'idée. Mais c'est juste parce que moi, pendant des années, je te dis, je ne me suis pas légitimée en me disant, ça va, on m'a tripoté. Il n'y a pas eu de pénétration forcément vie digitale. Mais c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment ça, de me dire, bah non, c'est pas grave, en fait, moi, c'est pas important. Ceux ou celles qui ont été violées, c'est plus grave. Moi, à côté, c'est pas très important. Et ça reste quand même une violence. Enfin, voilà, on te vole quelque chose de toi, une partie de toi. Après, je parle même pas de voilà, ta sexualité. Pendant des années, c'est juste fucked up. Si on veut dire ça comme ça, t'es vraiment dans quelque chose. Et puis, pareil, il y a des dérives où tu comprends pas. Parce que, par exemple, pendant un moment, j'étais dans un truc où il fallait me violenter. Et je me disais, mais t'as un problème, en fait. T'as subi des violences et t'as besoin d'être violentée. Mmh. Et en fait, pareil, il y a aussi ce truc de... Je voulais parler de... C'est comme si t'as une empreinte invisible sur toi où les êtres agresseurs te sentent. Parce que moi, je me disais, mais attends, ça m'est pas arrivé qu'une fois, ça m'est arrivé une dizaine de fois. Et en fait, c'est comme si les mecs, ils avaient une antenne. Et à 10 000 km, t'es repéré. Et en fait, c'est normal. Parce qu'il y a une partie de toi qui n'a connu que ça et qui va reproduire ce qu'elle a connu. Et tu vas rester dans un terrain, même si c'est douloureux, en fait, et tu t'en rends pas compte. Et tu vas reproduire ça. Et en fait, c'est aussi en même temps une façon inconsciente de prouver que ta non-valorisation, en fait. Tu vois, il y a quand même un cheminement. Et pas après, il y a ce qui suit, ben, l'autodestruction, il y a ben, l'alcool, les drogues. Enfin, il y a quand même tout un truc. Donc, ouais, ça peut flinguer, en fait, un attouchement. C'est pas forcément... La violence, elle est quand même... Ouais, elle est intérieure, elle est violente. Enfin, voilà, il n'y a pas d'hiérarchie, en fait, vraiment. Il y a ça aussi à dire. Ouais.
À partir de quel moment tu t'es rendu compte de ça, qu'il n'y avait pas d'hiérarchie ?
Longtemps. Ça m'a pris très longtemps. Bah, parce qu'en fait, tu... C'est bon aussi, il n'y a pas longtemps, parce que je suis encore suivie, mais pendant longtemps, j'étais vraiment madame, excusez-moi de m'excuser de vous déranger, parce qu'il y a vraiment ce truc-là. T'as vraiment ce truc de... T'as pas, enfin moi c'est pas grave, t'as une minimisation de ce que tu es, de ce que t'as subi. Et non, ben, je l'ai eu, ben, franchement je vais pas te mentir, je crois qu'il y a 5-6 ans, hein, vraiment. Après j'avais la place pour parler des choses, et après il y a ce truc assez formidable, parce qu'encore une fois avec cette procédure qui a, je te dis, ça date de 3-4 ans. Hein. Parce que toujours pareil, quand je lis ça, moi j'ai, comme je t'ai dit, j'ai tout qui remonte, et je finis en fait à l'unité psychotrauma de l'Hôtel Dieu. Et ça m'a sauvé la vie, parce que du coup, on m'a aussi diagnostiqué bipolaire, chose que je ne savais pas du tout. Et ça m'a beaucoup sauvé, parce que du coup, le traitement te permet de réguler tes humeurs. D'accord. Et tes émotions, ce qui n'est pas... Enfin, je veux dire, moi, c'était... Non, vraiment, parce que c'est un truc, des douleurs, elles sont... Si je peux te décrire ça, ça serait... Tu prends une plaie, tu l'ouvres et tu verses de l'alcool dessus, en fait. Voilà. Et c'est pas fin, c'est pas quelque chose qui... C'est une réelle douleur profonde. Et donc, tu vois, d'un événement, parce que moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans la vie, c'est un mal pour un bien, d'un événement qui était vraiment douloureux. Ouais. Je te dis, il est arrivé fanfaronnant. Parce que c'était ça aussi. Avant, dès que c'était le premier à en parler, les rares fois, ça arrivait. Mais la honte, c'était... En fait, c'est ça qui est fou. C'est toi la victime. qui a honte. Et c'était en mode non, surtout pas, qu'il ne parle pas, que personne ne sache. Mmh. Et là, c'était en mode, bah, vas-y, parle en fait, vas-y. Et puis encore aujourd'hui, encore plus, tu vois, parce que moi, j'ai toujours, jusqu'à maintenant, témoigné de façon anonyme. Et c'est encore une forme de honte. Et je pense qu'il y a... Ça dérange beaucoup, beaucoup de gens, tout ce qui se passe en ce moment avec Judith Godrèche. Mais en fait, ça libère beaucoup la parole. Et c'est aussi très important, je pense, parce que ce n'est pas que des milieux, que ce soit le cinéma, ou parce qu'on a aussi le MeToo au stand-up. Il y a plein de MeToo maintenant qui sont en train de sortir. Mais c'est toute la société, en vérité. C'est sociétal. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que la société elle arrête d'être dans un certain déni. Et qu'encore une fois, on est des victimes. Elles ont autre chose à foutre, en fait, en vérité. Que ce qu'elles sont en train de faire en ce moment. Et je pense que ce qui est vachement bien aussi à travers tous les réseaux sociaux qui sont en train de se faire, je veux dire aux jeunes victimes aujourd'hui qui sont en train de parler, elles ont ces outils-là et heureusement, et tant mieux. Moi, à mon époque, il n'y avait pas du tout ça. C'était vraiment du bouche à oreille. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et c'est hyper important, je pense, que de parler aujourd'hui justement, qu'il y ait de plus en plus de témoignages pour celles qui peuvent. Il y avait un autre truc qui m'avait fait super mal au cœur quand j'ai commencé à aller sur Internet et je parlais sur un forum de victimes et j'y retourne aussi de temps en temps. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a toujours des victimes qui arrivent, en fait, quelle que soit l'époque. Et c'est homme comme femme, en fait. Hein. Et ça, je trouve ça juste pas normal, en fait. Pas normal à notre ère du temps où on a toute cette technologie, toute cette capacité d'information. C'est pas normal que ça existe encore.
Super.
Ouais. j'ai tout sorti.
Mais parfait. Ouais. Est-ce que tu veux quand même, je sais pas, rajouter quelque chose, s'il y a des choses
non, bah que en fait, oublié, ou... non, franchement, la finalité, c'est vraiment mon leitmotiv maintenant, c'est vraiment retenir, il n'y a pas d'enchère dans les souffrances. Tant que ça vous fait mal, en fait, faut l'écouter, faut l'exprimer. Un attouchement n'est pas moins violent qu'un viol, en fait. J'ai mis longtemps à l'entendre, à le comprendre. C'est la perception de chacun. La souffrance, elle peut être aussi énorme sur deux événements. Il ne faut pas juger par rapport à ça. Il faut juger par rapport à sa propre souffrance et l'exprimer. Donc non, il n'y a pas d'enchère dans les souffrances.
C'est carrément important de le dire. Et ça me fait penser aussi quelque chose sur lequel tu avais insisté dans le témoignage vidéo où je t'avais vu. Sur l'imprescriptibilité.
Oui, exact.
Le mot est très long, mais
non, ouais. La prescription, honnêtement, là, elle a évolué. C'est ce que je raconte justement juste avant. C'est que je me sens vraiment chanceuse dans tout ce parcours-là que j'ai eu, moi, avec la police et le point de vue juridique. Mais elle ne devrait plus exister, en fait, parce que ben voilà, moi, ça m'est arrivé. Les retours de souvenirs sont commencés à 19 ans. Mais enfin, voilà, j'ai fait une traversée du désert de plus de 20 ans. Et puis, on s'auto aussi, parce qu'on se rétracte aussi, parce qu'on n'est pas outillé au niveau psychologique ou entouré au niveau thérapeutique pour le faire. Et moi, je pense qu'elle ne devrait pas avoir lieu, en vérité. Elle ne devrait pas exister. Voilà, et il faut voir ce qui se passe en ce moment avec plein de personnes qui parlent des années plus tard. On va trouver chez les victimes, en fait, plus ou moins. Et moi, j'ai vu vraiment très tôt dans les forums, quand j'y participais, il y a des choses qu'on retrouve, en fait, dans notre façon de comportement. Enfin, je veux dire, dans les amnésies traumatiques, dans les façons, justement, de se rétracter, dans l'hygiène, tu vas avoir. Moi, je sais que le fait de tomber dans les drogues, le fait des alcools, de se scarifier, toutes ces choses-là. Mm-hmm. Mais on n'a pas le même temps, en fait, de réaction les uns et les autres en fonction de notre vécu, en fonction de notre âge. Et je pense que c'est important qu'elle ne soit plus... Alors, il y a une petite avancée par rapport, je te dis, moi, quand j'ai voulu porter plainte il y a des années, c'était fini, tu peux rentrer chez toi, il n'y a rien à voir. Avec maintenant la possibilité juste que ma parole soit recueillie, c'est déjà hyper important, mais je pense qu'elle ne devrait franchement juste carrément pas exister. Parce qu'on peut pas... Voilà, moi, je vois ma sœur, ça lui est revenu à 40 ans, moi à 19. Enfin, on ne peut vraiment pas. Moi, je pense qu'effectivement, je ne peux pas prononcer ce mot, mais la prescription ne devrait pas exister.
Le mot qu'il ne faut plus prononcer.
Je ne peux plus le prononcer. Ils ont fait exprès, d'ailleurs, je pense. Non, voilà. Donc, non, si, tu as raison de revenir là-dessus. Je pense que ça ne devrait pas exister.
Oui.
Et après, il y a aussi ça, on en parle beaucoup en ce moment, j'aimerais bien que ça fasse suite. Je n'ai pas eu ce malheur, en fait, d'être poursuivie pour diffamation. Mais juste l'idée me faisait une peur, mais terrible. Et ça reste une réalité. C'est-à-dire que c'est une façon quand même financièrement, la victime, elle ne peut pas... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas essayer de détourner l'attention, en fait. Donc, non, ça aussi. Il faudrait aussi penser à bloquer.
Oui,
non, vraiment, parce qu'encore une fois, je veux dire, il faut l'entendre, que tout le monde l'entende. on se lève pas un bon matin en disant putain, mais qui est-ce qu'on pourrait faire chier aujourd'hui parce qu'on n'a rien à faire de nos vies et qu'on aimerait bien faire nos intéressantes. Ouais. Non, moi j'ai d'autres moyens de faire mon intéressante que ça. Enfin, c'est d'une violence et c'est aussi d'une violence que la société te reconnaisse pas. Et c'est une chose, mais dans ta famille, ça fait partie de la société. C'est un exemple, c'est pas une échelle. Et je trouve que c'est d'une violence. Voilà, moi j'ai épuisé. Ah, je suis passée pendant 25 ans pour une monteuse. Enfin, les gens ne se rendent pas compte de la violence que c'est. Même si là, quand ma sœur a eu son retour de souvenir, et que même mes sœurs, hein, mes propres sœurs, hein, il y a eu ça aussi, elles en ont douté. Moi, on ne récupérera pas le temps, les 25 ans que j'ai perdu, en fait. Je veux dire, il y a un soulagement. Et c'est ce que j'en parlais justement quand j'étais à l'hôpital, de dire, voilà, waouh. Mais il y a au fond, derrière aussi, une profonde tristesse. Je veux dire, putain, pendant 25 ans, quand même, il y avait... Quand tu sais aussi qu'après, il y avait des gens à côté de toi qui avaient vu des trucs et qui se doutaient de quelque chose et qui n'ont rien dit. Et qu'en fait, que j'ai pu voir aussi, moi, enfin, je veux dire, on s'est vu pendant des années, enfin, je veux dire, on a bien vu. Mais du coup, mon père adoptif utilisait beaucoup ma fragilité, le fait que j'aille en hôpital psychiatrique. Bah, vous voyez bien, en fait, elle n'est pas forcément bien constituée pour voir où est-ce qu'elle en est. Enfin, et non, bah non, en fait, c'est l'inverse. En fait, si on va là, on sait que je ne suis pas folle. Bon, je suis bipolaire, mais c'est un trouble de l'humeur. Et c'est intéressant parce que j'ai lu dernièrement, je ne sais plus dans quoi j'essaie de te renvoyer le truc, que souvent, justement, les troubles de l'humeur, c'est souvent lié à des traumas que tu as eus dans l'enfance, en fait. Donc, faites les liens, en fait, un petit peu.
Il y a un super livre, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est Le Livre Noir des violences sexuelles de Muriel Salmona.
Non, je l'ai découvert il n'y a pas très, très longtemps. Okay. Là, je suis en train de lire Florence Porcel, La Honte, qui est super intéressant.
Ouais, j'adorerais l'acheter.
Et si tu veux, je te le passe après. Je peux te le prêter avec plaisir. Et il y a dans Les yeux fermés d'Héloïse Robin, je crois, mais je ne suis pas sûre.
Je ne connais pas du tout.
Je viens juste de l'acheter. C'est une BD d'accord. qu'elle a faite. Et ça me parle un peu parce que voilà, c'est elle a été abusée par son grand-père. Et on la force en fait à vivre avec... pareil, c'est dans la famille de... qui croire et en fait en même temps on te croit mais en même temps ça va, tu peux déjeuner avec lui, non en fait. Donc ça a l'air super intéressant. Moi j'avais déjà vu une Salmona, comment ça s'appelle le prénom,
c'est Muriel Salmona.
Muriel Salmona, ouais. J'avais regardé justement sur YouTube.
Ah oui, d'accord.
Elle avait déjà, et je trouvais ça m'a parlé parce que elle est spécialisée dans l'amnésie traumatique justement, exact, il me semble. Et ça parle beaucoup en fait, c'est véridique, il y a vraiment des choses à...
Elle fait plein de liens, comme tu le dis, avec tous les troubles psychiques, psychotiques, névrotiques, tous les liens que ça a avec les violences sexuelles dans l'enfance.
Et le sujet, je pense qu'il est important en fait, de communiquer de plus en plus là-dessus, sur éduquer les gens sur l'amnésie traumatique. En fait.
C'est clair.
On n'en parle pas avant, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que souvent on a honte et parce que souvent on ne se rappelle pas. En fait. Et ce n'est pas du cinéma, c'est vraiment c'est réel.
C'est clair.
Vraiment réel. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Merci à toi. Merci à toi d'être venu.
Quand on est victime de violences sexuelles, on a souvent tendance à minimiser ce qui nous est arrivé. Alimata nous le rappelle, il n'y a pas de hiérarchie, quel que soit le type de violence que l'on subit. Elle laisse en nous une douleur qu'il faut écouter et ne jamais sous-estimer. Pour les crimes et les délits sexuels, la prescription reste une torture pour les personnes victimes. Comme le témoigne si bien Alimata, la levée de l'amnésie traumatique peut survenir à tout moment, et le parcours judiciaire est une telle épreuve que l'on devrait être libre de l'entamer lorsque l'on se sent prête. Merci à Alimata pour son authenticité, son énergie et sa confiance. Vous venez d'écouter le 12e épisode du podcast « Au bénéfice du doute ». Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blando. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.